Interview.
2 jours.
L'enregistrement. Valentina, bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour d'abord les musiciens qui jouent dans la rue, qui jouent chez quelqu'un, qui jouent dans la salle officielle. Donc, notre café-théâtre Andarta, c'est projet association Kaleidoscope qui soutient tous les musiciens locaux. Vous proposez pour cette saison jouer chez nous. Nous voulons d'abord préparer notre planning pour vous. Donc, c'est tous les musiciens qui habitent à Die, à Divois, à côté Cré, etc. Bienvenue chez nous. Donc, vous pouvez jouer chez nous. Ce n'est pas grave si vous êtes professionnel ou non. Dans cette année, nous voulons vraiment aider pour vous commencer ou continuer votre carrière musicale. Bienvenue chez nous. Donc, c'est dans l'Internet, nous pouvons vous trouver dans le Facebook, donc notre page Café Théâtre Andarta. Voilà, où il y a toutes les informations, parce que là-bas, je fais ce texte aussi. Et j'ai oublié complètement, chez nous, maintenant, il y a quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas vraiment nouveau, c'est tout ce qui existait déjà longtemps, c'est notre concours d'échecs. Maintenant, c'est chaque dimanche, à 12h. Bienvenue, si vous aimez jouer d'échecs, c'est chez nous.
Coraline Négard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en résidence dans la galerie Magma, située 3 rue du Salin. Et donc, vous êtes en résidence depuis globalement un mois.
Oui, c'est ça.
Vous y préparez une exposition qui aura lieu le 14 septembre à 15h jusqu'à 22h. On peut parler de ce travail, donc, principalement de peinture.
Oui, tout à fait, c'est un travail de peinture. Qui se définit de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. C'est un travail que j'ai commencé déjà il y a un an, qui a été inspiré par un lieu qui se trouve dans le Diwa, à côté de Léoncelle, dans un canyon, dans une forêt qu'on appelle la jungle du Léoncelle, qui est une forêt luxuriante dans laquelle... il y a une grande végétation, une grande variété de végétation, une belle canopée et beaucoup d'eau et qui a été assez peu touchée par l'homme. Et c'est un endroit dans lequel j'aime aller pour me réfugier, où j'aime être en immersion dans ce paysage. J'ai toujours travaillé le paysage. Et j'ai toujours aimé m'accorder aux lieux dans lesquels je me trouve et les habiter et me faire un peu la peau du monde pour être traversée et transpirer aussi ce que je perçois. Donc j'y passe du temps. C'est un état de plus réceptif dans lequel je me mets. D'écoute où l'œil n'est pas prépondérant. On pourrait penser que dans la peinture, le dessin, c'est surtout la vue et l'organe de l'œil qui est là pour nous guider. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le sens du toucher, les propriétés tactiles, qui est un sens qui traverse tout notre corps par l'intermédiaire de la peau et qui permet de se mettre en lien avec ce qui nous environne. Et c'est à partir de ces états-là que je commence à peindre ensuite dans l'atelier, à partir de photos aussi. Donc je prends des photos sur place et ensuite j'utilise une photographie pour commencer à peindre et à presque transporter ces paysages d'un endroit à un autre, de la forêt à l'atelier. Ce sont des paysages verticaux. Dans notre tradition occidentale, on a souvent utilisé le format horizontal pour le paysage et ça me... Je préfère le format vertical qui est plus utilisé en Asie, justement pour cette qualité aussi d'immersion et pas de frontalité face au paysage. Je trouve que dans l'horizontalité, le format horizontal, on est dans la représentation, dans la mise en scène un peu, de ce qu'on a en face de nous et on le vit plus vraiment. Et là, dans cette verticalité, voilà, il y a quelque chose de plus immersif qui m'intéresse. Il y a quelque chose de la chute aussi. Il y a quelque chose de la chute et du mouvement. Et je cherche de plus en plus le mouvement dans ma peinture. Et le mouvement, là, en l'occurrence, pendant cette résidence, j'ai surtout travaillé autour du thème de la liane. Et donc la liane, c'est vraiment ce végétal qui n'est pas du tout classé botaniquement. Il y a à peu près 130 espèces de plantes qui pourraient être des lianes, qui sont soit rampantes, soit grimpantes. Et du coup, c'est vraiment un élément dans cet environnement qui traverse le paysage, qui vient relier des informations, qui vient aussi, qui a besoin d'un support pour s'agripper, en fait, qui économise son énergie. Elle crée pas un tronc, mais elle vient s'accrocher au tronc déjà existant pour aller chercher la lumière. Et donc, dans des circonvolutions, des entrelacs, elle contourne, elle crée des tours, des détours, c'est en dessus, en dessous. Et donc, on a plus une vision frontale, on a vraiment une vision qui part dans toutes les directions. Et qui nous fait cheminer dans le paysage et voilà, trouver des chemins qu'on n'aurait jamais pensé imaginer. Et donc je me laisse guider par ces lianes, et ma ligne dans le dessin devient un peu une liane aussi. Et ça permet de mettre en lien tous les éléments de la composition ensemble.
Vous utilisez dans le titre de l'exposition liane et reliance. Reliance, c'est ce qui relie.
Voilà, c'est ce qui relie. Et c'est reliance, c'est aussi parce que dans ce mot, il y a l'action de relier. Et donc, on n'est pas vraiment dans le lien qui fige quelque chose, mais on est dans cet acte de relier, de se relier, mais de pouvoir se délier aussi. Et voilà, c'est dans l'action que ça me plaisait, pour garder toujours cette idée de mouvement, de danse aussi, de corps. D'ailleurs, pendant le vernissage, il y aura peut-être une intervention d'une amie qui viendra danser. Moi aussi, je danse. Et c'est vraiment important pour moi, le mouvement et de me relier aux autres et au monde à travers le mouvement. Et c'est ce que je cherche là dans ma peinture.
Vous parliez de cadres particuliers sur lesquels vous avez pris des photos, des notes. Donc... un paysage tout en verticalité qui fait écho sur vos formats verticaux. Et puis, il y a aussi ce rappel, hein, de la verticalité avec soit des troncs ou soit des lianes qui apparaissent aussi. Ce travail que vous opérez actuellement est le résultat de pas mal d'années de recherche aussi, dans la proposition picturale aussi particulière, qui interroge également, qui égare surtout. C'est un peu ce cheminement aussi de se perdre dans la nature.
Oui, c'est ce cheminement de se perdre dans la nature, tout à fait, et de se perdre dans le dessin et dans la manière dont je fonctionne, on va dire. Je commence à partir d'un support, un peu comme la liane qui a besoin du support pour s'accrocher. Moi, mon support, c'est la photo que j'ai ramenée du lieu dans lequel qui m'inspire. Et à partir de cette photo, donc je pars de quelque chose, à partir de quelque chose, je commence à dessiner. Mais ensuite, je me laisse beaucoup guider par ce qui advient. Et je ne sais pas vraiment où je vais. Et les choses se font, se défont au fur et à mesure. J'aime aussi laisser une place au vide, à des réserves, à des endroits qui restent qu'au trait, dans lesquels je ne mets pas de couleur et qui restent là même une fois que je considère que la peinture est terminée. Et étonnamment, ces vides parfois viennent au premier plan. Et pour moi, c'est très important, cette place du vide. Je pense que je suis influencée par l'art asiatique à cet endroit-là, mais comme vraiment c'est pas le rien, en fait, le vide. C'est vraiment l'endroit où tout peut advenir. Et c'est le lieu de tous les potentiels. Et alors, c'est toujours une surprise quand le tableau est fini, que j'ai gardé des réserves et que c'est elles qui viennent se mettre au premier plan. J'aime aussi mélanger les plans. La couleur me surprend toujours. Et à chaque fois qu'une couleur est posée, toute la toile est déconstruite. Et dans cette déconstruction, j'aime me perdre et nous faire perdre aussi les repères, plus avoir les mêmes repères que d'habitude par rapport à un point de fuite ou une perspective classique, mais que le petit, que le grand soit mélangé et que l'œil puisse circuler sans avoir des repères vraiment habituels et du coup trouver de nouveaux chemins et peut-être de nouvelles manières de regarder aussi le monde après, une fois qu'on est sorti de l'atelier.
Vous parliez de l'art asiatique. Vos couleurs s'y réfèrent également Non, pas forcément. Il y a un mystère quand même dans ce choix de couleurs. Ce ne sont pas des couleurs forcément vives, mais elles se juxtaposent dans des formes. Et on peut les retrouver quand même dans la plupart de vos propositions qui sont sur ce mur d'atelier, qui seront visibles pour cette exposition.
Oui, tout à fait. La couleur, c'est un monde que je maîtrise beaucoup moins que le dessin. Et en même temps, c'est vraiment mon plus grand plaisir, justement, parce que c'est un peu un jeu, en fait. À chaque fois qu'une couleur se pose, ça change tout, et je ne sais pas trop ce qui se passe. Je mélange, je pars d'une couleur sur ma palette, et ensuite, tout se mélange à partir de cette couleur. Donc, voilà, y a une espèce de déclinaison comme ça qui se fait au fur et à mesure, et je suis très influencée par une artiste brésilienne en ce moment pour la gamme colorée qui s'appelle Lucia Laguna et qui utilise comme ça beaucoup, beaucoup de couleurs sur sa palette que je trouve très joyeuse et très lumineuse. Et je crois que je suis en quête, un peu comme la liane de lumière en ce moment dans ma peinture. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu pas mal d'années où j'utilisais une ou deux couleurs sur la peinture. Et là, j'ai vraiment besoin de ce foisonnement, de cette abondance, de cette luxuriance qui fait écho aussi à la jungle du Léoncel et qui vient contrebalancer cette année passée en Grèce, dans les Cyclades, dans un environnement beaucoup plus désertique, beaucoup plus dénudé, où là, ma gamme colorée était plus réduite, même si la lumière est belle. Et voilà, c'est dans cette quête aussi d'abondance, de diversité que je choisis mes couleurs en ce moment.
Il y a une autre représentation, un diptyque, avec en quelque sorte une symétrie d'une image inversée, qui sont côte à côte. Quelle est cette démarche, justement, de faire une copie inversée de cette image?
C'est une expérimentation. Donc, il n'y a pas vraiment de démarche au départ. Mais ce que ça m'inspire en tout cas dans le fond, et c'est une chose qui revient assez souvent dans ma peinture, c'est je parlais au début de l'œil et de la vision par l'œil. J'ai lu les écrits récemment de Fabienne Verdier, qui est une peintre que j'aime beaucoup, et à un moment donné elle parle de la vision du cœur, et dans cette vision du cœur Il y a un endroit où on sort de l'œil et on se dit que la réalité qu'on perçoit, c'est pas la seule réalité qui existe, et qu'il y a le visible et l'invisible, et que dans ce diptyque, il y a un peu comme ça un passage d'un monde, il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on voit pas, mais qui existe quand même. Et dans la répétition d'une chose inversée comme un miroir, c'est un peu passé de l'autre côté du miroir. Et c'est une quête de vision, un peu, de refaire la même chose à l'identique, mais pas tout à fait pareil, et en miroir, comme passer dans un autre monde. Et pour rebondir sur mon ami Guillaume Allardy, qui va venir chanter dimanche lors du vernissage, c'est quelqu'un qui mixe aussi le mystique et le politique dans ses textes. Et qui passe vraiment de textes d'une poésie tranchante à une poésie sibylline, en fait, et qui joue vraiment sur ces jeux de donner des choses qui sont de l'ordre du visible et de l'évidence, et puis de passer aussi dans le domaine du mystère et de ce qu'on perçoit pas forcément.
Au début de l'émission, vous parliez donc de deux sens, la vue et le toucher. Comment s'établit ce rapport du toucher sur vos dessins, vos peintures? Est-ce qu'il y a une recherche picturale par la couleur de cette sensation? Donc ça peut être la dureté, la douceur, l'humide, le sec. Est-ce que vous essayez de construire, constituer un langage pictural sur ce sens du toucher?
Alors au départ, c'est plutôt le sens du toucher dans les lieux dans lesquels je me trouve qui est activé et qui ensuite m'amène à peindre et à me remettre dans des états au moment où je peins qui ressemblent aux états dans lesquels je peux me trouver quand je suis sur les lieux. Mais après, c'est vrai que je fais plutôt des choix de couleurs, on peut dire un peu pastel, mais surtout mat, et que dans cette matité, il y a une profondeur qui puisse rappeler le contact d'une peau à peau. Voilà, je masse aussi, je suis aussi masseuse, donc le toucher est un sens que je connais bien. Et donc d'être dans cette profondeur et dans toutes ces strates d'informations qui peuvent se faire dans la lenteur, dans la prise de contact entre deux êtres ou deux éléments. Et voilà, la matité, pour moi, m'inspire ça. Quelque chose un peu comme du velours aussi, comme une sorte aussi d'obscurité dans la matière, comme il peut y avoir, encore une fois, en Asie, dans les lacs ou dans la soupe miso japonaise. On est dans quelque chose de très mystérieux et de presque tactile aussi, parce qu'on ne pénètre pas vraiment, quoi.
Il y a aussi une unité dans ces séries, c'est aussi cette manière d'amener la couleur, ce rythme aussi d'intervention de chaque forme qui se répète, qu'on peut retrouver aussi sur les uns et les autres. Vous parliez de chant tout à l'heure, est-ce qu'il y a une musicalité aussi que vous essayez de transmettre dans ce rythme de ces formes, de ces couleurs?
Alors, il y a deux choses déjà qui me viennent quand je vous écoute. C'est la première, c'est qu'il y a plusieurs dessins qui sont présentés ici, qui sont travaillés d'après la même photo. Et c'est une manière pour moi de quelque part, de réexpérimenter et de parler de quand on s'installe quelque part et qu'on y passe du temps par les jeux de lumière, mais pas par aussi le regard qui se pose et qui reste, petit à petit on perçoit de plus en plus de choses ou des choses très différentes et les choses apparaissent à nous. Voilà, et c'est ces apparitions que j'aime dans la répétition et dans la reproduction d'un même motif. La musicalité, je peins toujours en musique. Et lors de cette résidence à la galerie Magma qui se trouve au fond du café-théâtre Andarta, j'ai souvent gardé la porte ouverte et c'était très beau pour moi d'entendre des artistes venir se mettre au piano ou répéter leurs concerts. Et ça m'a beaucoup accompagnée dans la production des œuvres qui sont présentées ici. Et je rebondis là-dessus pour dire que le vernissage, la sortie de résidence qui aura lieu dimanche, j'ai invité aussi, c'est cet artiste musicien, une amie danseuse, et je veux que ça se passe aussi au café-théâtre Andarta, et que ces liens, ces lianes, ces liens, tout ça, qu'il y ait des prolongements qui puissent se faire au-delà de l'atelier, au-delà de l'espace de présentation des tableaux, et que les personnes qui sont passées par le café font partie aussi de la manière dont j'ai peint de cette résidence et que ça me tient beaucoup à cœur. Et ces peintures contiennent mes lectures, contiennent les musiques que j'écoute, contiennent les gens qui me sont chers et c'est important qu'ils soient là.
Vos prises de notes photographiques, mais vous les faites aussi en tentative par aquarelle de saisir un paysage que vous observez?
Très très peu. Ça m'est arrivé sur une toute petite période quand j'habitais en Grèce de commencer à croquer sur place. Mais en général, sur place, c'est vraiment le temps. Ça peut être des heures et des heures passées, voire des jours dans le lit d'une rivière, à être vraiment en immersion dans le paysage. Et je préfère pas prendre le crayon à ce moment-là. Je préfère vraiment être dans le ressenti et la perception que j'ai de ce qui m'environne à ce moment-là. Voilà, donc la photo est assez pratique parce que ça me permet d'avoir une trace à la fin en un clic au moment où je pars. Mais mais ce n'est pas prépondérant.
Le choix des couleurs ne sont pas forcément motivés par une restitution de la réalité. Comment s'opère ce festival de teintes ?
C'est très improvisé et ça fait plaisir à mon œil. Voilà. Il y a vraiment une sensation d'apaisement quand je trouve ces couleurs et c'est... Oui, c'est pas du tout en représentation de ce que j'ai pu voir, mais par contre, dans la sensation, ça peut rappeler de la joie que j'ai pu éprouver en étant dans les lieux sur lesquels j'étais.
Les formats sont variables aussi, hein. Ça peut être du très grand format. C'est format grand aigle. Vous utilisez des formats prédéfinis, du papier ?
Ça dépend. Là, il y a beaucoup de formats prédéfinis qui correspondent à un bloc de papier que j'ai utilisé pour peindre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà.
Justement, il y a des formats, je dirais plutôt format A3. Et puis d'autres, là, je pense à Grand Aigle, hein, c'est un des plus grands formats qu'on puisse trouver. Y a la manière de travailler diffère en fonction de la taille aussi. Est-ce qu'il y a une progression proportionnelle du motif en fonction de la taille du format ?
Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler des très grands formats parce que une des raisons pour lesquelles aussi je peins sur papier, c'est que je n'ai pas d'atelier et je me déplace, donc je vais d'un endroit à un autre pour peindre. Et ça ne me laisse pas forcément le temps ni la possibilité pratique de faire des grands formats. Là, je me suis lancée sur la fin de cette résidence dans des plus grands formats et pour le dessin, j'ai utilisé un rétroprojecteur. Voilà. Donc là, j'ai agrandi à l'aide d'un rétroprojecteur pour suivre vraiment les lignes projetées sans vraiment m'arrêter en fait et sans avoir à réfléchir et telle la liane comme ça qui circule et qui se tisse. C'était un bon outil pour moi pour circuler dans l'espace du papier qui dans sa taille me permettait vraiment de plonger dedans et de circuler au fur et à mesure.
Vous êtes danseuse, cette recherche de l'équilibre, vous essayez aussi de restituer dans vos graphismes, vos dessins. Est-ce que même, je pose une question, je connais des peintres qui travaillent avec un miroir hein, pour vérifier l'équilibre de la proposition, c'est un peu le cas pour vous ?
Alors non, je ne travaille pas avec un miroir, mais je parlerais plutôt de déséquilibre. Je suis plutôt en recherche de déséquilibre constant, un peu comme la marche qui est une chute rattrapée. Et c'est là où on se met en mouvement, en fait. C'est en chutant et en étant plutôt en déséquilibre et on se rattrape. Donc c'est plutôt ça, surtout quand j'aborde la couleur. Elle vient vraiment déséquilibrer la composition et ensuite je rattrape avec une autre couleur et qui déséquilibre à nouveau et les choses se font cheminent de cette manière-là jusqu'à ce que ce soit fini.
D'ailleurs, comment s'est opérée cette rencontre avec Floriane de la galerie Magma pour vous inviter ici à travailler et puis exposer ?
On s'est rencontrés d'abord à un vernissage de la galerie Magma au tout début, à l'ouverture, il y a un peu plus d'un an. Et on s'est croisés souvent dans Dix cet hiver. On a eu l'occasion de discuter un peu. Et puis, dernièrement, dans un dîner. Et voilà, c'est tout simplement, elle m'a proposé de venir. Et moi, j'étais libre cet été. Et c'est un grand plaisir d'être là, dans ce lieu qui est devenu un peu comme ma maison ici ces derniers temps, avec Valentina à côté, avec le café, et Floriane très accueillante, tout en discrétion et en même temps en disponibilité.
Qu'est-ce qui vous a envie ou donné l'envie de peindre ?
Eh bien, c'est une bonne question. Quand j'étais ado, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai une tante qui faisait de l'hypnose. Et qui, sous hypnose, à la fin, m'a dit, on a conclu que je serais artiste et artiste peintre. Voilà. Et donc j'ai commencé à dessiner et à peindre, et c'est venu comme ça. J'ai fait les arts déco à Paris, que j'ai quitté au bout de de 2 ans et demi parce que cette institution me convenait pas. Et depuis, j'ai toujours peint, un peu hors des sentiers battus.
Effectivement, vous parlez hors des sentiers battus. On est vraiment dans une route qui nous égare, hein, vraiment. Et est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont marqué ou donné envie de peindre aussi ?
Alors oui, et qui m'influence plus vraiment. Par exemple, un artiste allemand qui s'appelle Max Neumann, qui m'a beaucoup inspirée il y a 15 ans. Ensuite, ça a été pas mal un artiste danois, Per Kirkeby, qui lui peint plus du paysage, mais quand même assez sombre toujours. Et voilà, là, je vais vers des choses plus colorées et plus en quête de joie. Et en ce moment, c'est plutôt l'artiste Lucia Laguna qui m'accompagne. Également une autre artiste australienne qui peint des paysages qui s'appelle Amy Wright. Et elle s'inspire de friches, de délaissés, un peu de, comme en parle Gilles Clément, de tiers paysages et de lieux laissés à l'abandon où voilà, la nature peut s'exprimer à nouveau dans sa diversité. Et elle m'inspire aussi ces derniers temps.
Votre travail est vu sur beaucoup de lieux. Hein. Vous avez montré dans diverses expositions vos travaux. Il y a une évolution aussi dans le graphisme, dans la proposition picturale. Est-ce que vous vous inspirez de l'instant, du lieu pour travailler ? Est-ce que si vous vous retrouviez dans un autre endroit tel qu'une ville, vous auriez cette même expression ou vous vous adapterez au vertical, à l'horizontal ?
Je suis vraiment influencée par les lieux sur lesquels je me trouve. C'est pour ça que j'ai jamais eu vraiment d'atelier aussi. Donc j'ai beaucoup peint sur des îles en Grèce, toujours dans des environnements plutôt où il y a la nature, en tout cas proche. Et voilà, c'est important pour moi. Je pense pas que je peindrais dans une ville. Ça ferait pas beaucoup de sens. Et au niveau des couleurs, ce que j'ai remarqué aussi, et vraiment malgré moi, c'est que très souvent, les personnes qui m'entourent au moment où je peins, dans la période pendant laquelle je peins, en tout cas pas sur le moment même, mais dans cette période-là, où les lieux dans lesquels je vis influencent beaucoup ma gamme colorée. Et c'est comme s'il y avait une persistance un peu rétinienne des couleurs qui sont là autour de moi, dans mon environnement proche, qui viennent ensuite se poser sur mes peintures. Donc il y a encore cette histoire de reliance, voilà, qui vient opérer.
Tout à l'heure, vous parliez aussi de musique, hein, qui vous emmenait dans votre création. Est-ce qu'il y a un instrument de prédilection qui vous permet justement de trouver ce rythme et puis cette affirmation aussi ?
Alors, je dirais pas un instrument, mais plutôt un style musical. J'écoute beaucoup de jazz et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à peindre. En fait, mes tout premiers dessins, c'était il y a une vingtaine d'années dans des clubs de jazz où là, j'ai dessiné dans une ville, en fait, à Paris, où je dessinais les musiciens en train de jouer. J'ai fait ça vraiment tous les soirs pendant un an. Et petit à petit, j'ai fermé les yeux et je me suis vraiment laissé imprégner des vibrations que je sentais sur ma peau de la musique pour travailler mon trait. Et ça a été voilà, les tout débuts du dessin pour moi. Et c'est resté, ça a continué de m'accompagner, la musique au moment où je peins. Alors, je n'ai pas forcément la chance d'avoir toujours des musiciens à côté de moi, mais en tout cas, j'écoute beaucoup de jazz. Et cette improvisation et ce déroulement musical dans l'improvisation m'aident beaucoup à dérouler aussi la ligne et à me laisser amener à des endroits où j'aurais pas forcément eu idée d'aller avant de commencer.
Durant ce vernissage du 14 septembre, de 15h à 22h, il y aura une intervention d'une amie qui est danseuse et donc de Guillaume Allardy. Pour vous, quel est ce lien entre votre œuvre, votre travail et ces deux personnes ?
Alors, Guillaume est un ami très cher que j'ai connu même avant de le rencontrer, on va dire, et avec qui je me sens vraiment en lien. Voilà, lui, il peint pas, il écrit, il chante, il est comédien aussi. Et pour la petite anecdote, quand je lui ai proposé de venir pour cet événement, en lui demandant s'il pouvait éventuellement chanter, je lui ai envoyé le texte qui est sur la vitrine, le mémento d'un livre que j'ai lu aussi ces derniers jours, et en lui disant bah, peut-être ça peut t'inspirer pour choisir tes textes aussi, les textes que tu vas chanter lors de cet événement. Et il m'a dit, je connais très bien cet auteur, c'est un ami. Voilà, je l'ai invité aussi à un festival que j'ai organisé, et là je me suis dit bah oui, c'est évident en fait, on baigne dans le même bain avec Guillaume, et c'est important qu'il soit là, parce que même si on travaille pas forcément ensemble sur le même projet, on est vraiment reliés, et donc pour moi c'est important qu'il soit là. Et Suzanne, c'est une amie qui habite à Die, qui va danser peut-être. Et on danse ensemble depuis que moi j'habite à Die aussi, à l'exosquelette. Et voilà, c'est quelqu'un qui a posé un regard sur ma peinture, qui m'a parlé et ému. Et elle a été elle aussi émue. Et je trouve ça beau qu'elle puisse venir, si elle peut, improviser ce jour-là et qu'on soit tous ensemble.
Coralie Négard, vous avez une page internet de vos travaux, de vos œuvres ?
Alors, non. Je n'ai pas de page internet, je poste sur Instagram des photos de mon travail, pas forcément très régulièrement, mais voilà, c'est un endroit où on peut voir mon travail, mais je n'ai pas de page internet.
Avec le même nom ?
Avec le même nom, tout à fait, Coralie Négard.
Ce travail, c'est aussi un moyen de vivre pour vous ? Est-ce qu'il est suffisant, ou alors il y a cette nécessité d'avoir d'autres pratiques professionnel à côté?
Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait les arts déco à Paris, et je suis partie en milieu de cursus pour différentes raisons, et à ce moment-là, j'ai un peu signé un pacte avec moi-même de pas me donner à vivre de ma peinture. Et en même temps, un peu par hasard, j'ai commencé à masser, donc je suis aussi masseuse. Et c'est venu par le biais d'une pratique d'un art martial indien, le Kalaripayat, qui a été aussi une manière pour moi de rentrer dans mon corps, parce que dans la peinture, parfois on se désincarne un peu. Et c'est un grand soutien pour moi pour peindre, pour retrouver la terre et faire presque le lien entre la terre et le ciel, d'où ces formats verticaux aussi d'ailleurs. Et donc voilà, je masse pour gagner ma vie, et je peins et je ne compte pas là-dessus. Et c'est beaucoup plus libre et joyeux.
Coralie Négard, merci beaucoup de votre patience, hein, de nous avoir accueillis dans cet atelier pour nous parler donc de votre exposition qui débutera. Et ça sera une journée unique.
Oui, comme c'était une résidence, c'est vraiment un événement qui célèbre la fin de cette résidence. Donc ce sera une journée unique. Et merci beaucoup à vous, c'était un plaisir.
Je pose la question, est-ce qu'il y aura une suite sur d'autres perspectives d'ateliers, de création ?
Eh bien, en tout cas, je vais continuer ce projet qui est vraiment, pour moi, c'est le tout début de quelque chose qui va se poursuivre. Et après, j'aimerais beaucoup trouver d'autres lieux qui puissent m'accueillir pour travailler.
Bonne soirée. We'll be right back.